Vous écoutez
RMC.
Qu'est-ce que je te dise ? Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien et d'un seul coup, tout va si mal. Et un jour, tu te réveilles, au bout de quelques années, tu te crois le meilleur, mais c'est faux. T'es juste un ringard. Mais si on l'avait perdu, le titre, est-ce que ça aurait été si grave ? Ça aurait eu au moins l'avantage d'être vrai.
Au lendemain de la mort de George Foreman, on en a parlé hier dans cette émission, et bien ce matin, la machine à remonter le temps des grandes gueules du sport va parler de boxe et s'arrêter en 1979, une époque où la star des stars du sport mondial, vous le savez, se nomme Mohamed Ali, le boxeur américain, champion du monde des poids lourds et ses histoires incroyables. Un champion qui, cette année-là, Christophe, s'est pourtant fait une belle frayeur face à un boxeur inconnu, un combat qui sera à l'origine d'un des films les plus connus de l'histoire du cinéma.
Pour Mohamed Ali, the greatest boxer of all time, ce combat face à Webner ne devait être qu'une formalité. Après avoir successivement battu des cadors tels que Norton, Frazier et Foreman, le champion du monde des poids lourds est convaincu qu'il ne risque pas grand-chose face au sanguinolent de Bayonne. Oui, ce surnom peu valorisant, c'est celui de Chuck Webner, un vieux et beau bébé de 37 ans, 2 mètres et 100 kilos, originaire de Bayonne, petite ville non pas du Pays Basque, mais cachée derrière la statue de la Liberté, juste en face de New York. Webner a été choisi par Ali pour la couleur de sa peau. Et oui, chez les lourds, les blancs ne sont pas légion, et le champion rêve de s'en faire un. Mais le sanguinolent, surnom qu'il doit aux multiples blessures infligées par ses adversaires tout au long de sa carrière, est décidé à saisir enfin sa chance. Alors, avec la bourse reçue par avance, il se paye un coach et 7 semaines d'entraînement intensif dans un hôtel de luxe, les plus belles de sa vie. C'était incroyable. Pour la première fois de ma carrière, je m'entraînais à plein temps. Pour la première fois de ma vie, j'étais le gars en haut de l'affiche. Le jour d'avant, j'étais sur la route à faire mon boulot de commercial. Et là, je m'entraînais à plein temps dans un hôtel de luxe. Je mangeais ce que je voulais. Franchement, ça a été les 7 plus belles semaines de ma vie, excepté peut-être les 2 jours où j'ai marié ma femme. Et le rêve se poursuit lorsqu'il est invité à la télé dans le célèbre Mike Douglas Show. Aux côtés d'Ali en personne, plus piquant encore sur les plateaux de télé que sur un ring, c'est dire. T'es vraiment sûr que t'as jamais été à terre, Chuck, c'est ça ? Oui, c'est ce que j'ai dit, jamais. Eh bien, ce sera la première. Chuck, pensez-vous pouvoir battre le champion ? Bien sûr que j'y crois, j'ai faim. Eh bien, t'as qu'à aller acheter ta bouffe tout seul, mon gars. Ce 24 mars 1975, si le Coliseum de Richfield, dans la banlieue de Cleveland, a fait le plein, tout le monde s'attend à un combat expéditif, combat qualifié par le commentateur de la télé américaine comme la rencontre d'un artiste peintre et d'un peintre en bâtiment. Mais face à l'artiste, l'artisan va s'accrocher, ne rien lâcher, tant et si bien que le combat dure et offre même à ses spectateurs une totale surprise à la 9e reprise. Ali, surpris par le coup, est à terre. Debout, face à lui, Chuck n'en revient pas. Je l'ai touché d'une droite, juste sous le cœur. C'était pas un coup très puissant, mais il a été déséquilibré. Alors je me suis retourné vers mon coin, j'ai dit à mon manager Al Brightman, Al, on vient de dévaliser la banque. Il m'a répondu, si j'étais toi, je me retournerais, et vite, parce qu'il se relève et il a pas l'air très content. Ouais, le champion est même vexé comme un pou et décide alors d'engager le combat pour de bon. Durant les 6 rounds suivants, Webner va subir une pluie de crochets, de directs, du percute, mais il tient. Il tient jusqu'à 19 secondes de la fin du combat où, saoulé de coups, il finit par s'écrouler. En sang et en sueur, les yeux fermés par les coups, Webner lui quitte le ring sous les vivats d'un public ébahi par sa résistance. Un combat auquel un jeune acteur de série B a assisté dans un cinéma de Philadelphie qui retransmettait la rencontre. Sylvester Stallone, c'est son nom, nous raconte la suite. Ce que j'ai vu était extraordinaire. J'ai vu un homme qu'ils appelaient le sanguinolent de Bayonne affronter la plus grande machine à coups de tous les temps, alors qu'il n'avait strictement aucune chance. Mais l'ombre d'un instant, ce coup de chance s'est révélé magnifique. Webner a tenu bon, a mis le champion à terre. Je me suis dit que c'était l'histoire dont j'avais besoin. Un homme qui va affronter la vie, tenter sa chance et aller jusqu'au bout. Alors j'ai commencé à écrire, et 3 jours plus tard, j'avais le scénario de Rocky. un scénario qui enchante aussitôt les producteurs d'Hollywood qui vont proposer à Stallone des sommes folles pour le lui acheter. Mais le jeune homme veut plus et veut surtout jouer le rôle de Rocky à l'écran. Alors, il refuse des propositions et convainc d'autres producteurs de mettre quelques sous dans l'affaire. $1 million seulement pour un film qui en rapportera plus de 225 avec 3 Oscars à la clé. Stallone change de dimension, il devient une star d'Hollywood. Quant à Wessner, il connaît lui aussi son quart d'heure de gloire, mais seulement dans les boîtes de nuit du New Jersey, où il va fréquenter starlets, bouteilles d'alcool et lignes de coke. La drogue, qui finira par l'envoyer derrière les barreaux durant 26 mois, libéré pour bonne conduite, le bon gars du New Jersey, apprécié de tous, va alors petit à petit se reconstruire, devenir l'ami d'Ali et conclure un accord financier avec Stallone. Il aura même les honneurs d'un documentaire, puis d'un film à sa gloire, intitulé The Real Rocky, oui, car le vrai Rocky, vous l'avez compris, a vraiment existé.
Quelle histoire racontée par Christophe Cessieux, je ne la connaissais pas, tu voulais absolument la faire et c'est vrai qu'on était tous impatients de connaître cette histoire du vrai Rocky. Tu connaissais toi Marc ?
Non, je ne connaissais pas l'histoire mais j'ai envie de la connaître encore un peu plus après ce que vient de nous raconter Christophe.
Alors sachez que c'est un hasard total, mais on nous a mis dans
c'est
le studio
incroyable,
Fighter Club Légende sur RMC Sport 1 actuellement, et il y a ce combat. Voilà, donc si vous
oui,
voulez
parce
y
que
aller,
c'est la date anniversaire, c'est le 24 mars, je crois.
Oui, 1975, ouais. Exactement. Donc si vous voulez aller voir ça, comment ça se passe, là ils sont tous les deux sur leurs chaises respectives. On voit Wepner en sang actuellement. Vous pouvez aller sur RMC Sport 1
quand il a mis Rocky Ali à terre, l'autre était vraiment très très
énervé. Mais là,
énervant.
C'est avant, là, on est sur la 8e.
C'est la 8e, mais c'est là, juste après qu'Ali va aller à terre.
Il était déjà bien entamé. Hein.
Ouais, alors il lui marche un peu sur le pied au moment où il donne le coup. Ah ouais. Et ça déséquilibre Ali. Donc Ali reconnaîtra jamais avoir été vraiment officiellement mis à terre par Wepner.
Ah, c'est beau bon. Ça. Vous connaissiez l'histoire ou pas, Jérôme ?
Je connaissais pas l'histoire. J'ai évidemment regardé tous les Rocky, mais je connaissais pas l'histoire de base et de ce combat-là, non, je connaissais pas.
Toi, David, le cinéphile, tu connaissais cette histoire du vrai Rocky ?
Ouais, je savais que c'était tiré d'une histoire vraie, mais je n'avais pas tous ces détails. Et franchement, Christophe, je me suis régalé.
Merci, bravo, mon David.
Sincèrement, magnifique.
En tout cas, je vous le redis, hein, si vous voulez aller voir ce combat, c'est absolument magnifique.
Ah, on va regarder, on va voir Ali.
Tu veux commenter, c'est ça? Ça n'a pas pris une ride, en tout cas, entre Wepner
Ali en 79 danse encore autour de ses adversaires. Mais c'est vrai qu'il a battu tous les plus grands à l'époque. Et là, il se fait un combat pour la forme. Mais le problème, c'est que ce Wepner est un dur au mal. C'est un mec qui n'a jamais été mis à terre avant le combat contre Ali et qui va sauter sur l'occasion. C'est la chance de sa vie. Imaginez pour un garçon du New Jersey qui a un beau palmarès, 41 combats, 30 victoires en 41 combats, affronter Ali, c'est le rêve d'une vie. Et il va rien lâcher. Alors il va en prendre plein la tête parce qu'il n'avait qu'une tactique, c'était avancer sur son adversaire sans vraiment beaucoup de garde. Il est très costaud, très grand, mais face à un garçon comme Ali et à la rapidité d'Ali, évidemment c'est compliqué. Et là donc dans ce 9e round, alors que Ali mène tranquillement au point, eh bien il va subir ce petit coup de au cœur qui va l'envoyer à terre et il va aussitôt se relever évidemment.
Hein. Mais c'est vrai que
ce qui est impressionnant à voir dans tout cela, c'est la faculté à Wepner de résister alors que tous les coups d'Ali sont portés. Wepner se fatigue à essayer de toucher Ali, alors que Ali, à chaque fois qu'il en met une...
Tiens, pam, et voilà, Ali est à terre. Il a pris un coup au cœur, il se relève immédiatement, et dans le regard de Mohamed Ali, il y a un peu d'incompréhension. Comment, moi, les fesses par terre, face à ce boxeur que personne ne connaît, et voilà l'arbitre qui me compte. Non mais je rêve, c'est pas possible. Allez, là je vais reprendre, et là je vais en faire qu'une bouchée de notre ami Wepner.
J'avais pas vu l'image, mais c'est vrai qu'il lui marche dessus.
Il lui marche, il lui met le pied dessus.
Et ça le déséquilibre. Donc évidemment, on peut comprendre que Ali soit tombé. Attends, mais c'est vrai qu'on reconnaissait pas Ali au début du combat. Il était dans les cordes. On sentait que Wepner.
Il était dans les cordes face à Foreman à Kinshasa. Il est aussi la plupart du temps dans les cordes et il attend que son adversaire Foreman se fatigue avant d'accélérer en fin de combat et là de lui mettre une rose quoi.
Bon, en tout cas, c'est assez incroyable de suivre cette histoire avec toi. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander comme ça, quel est votre film sur le sport, celui qui vous a le plus enthousiasmé, votre film de sport préféré. Marc, c'est quoi ?
Le vélo de Guylain Lambert.
D'accord. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que
tu prenais les mêmes trucs que Guylain ou non ? Tu sais quand il accélère là.
Non, mais le vélo de Guylain Lambert, ça sent bon les années 70. Le vélo autour avec du clocher avec Benoît Poulvord, il y a plein de petites anecdotes qui sont succulentes.
Les expressions à utiliser,
c'est génial.
Et les
façons
de faire,
quand il est devant sa glace, il dit t'es affûté, toi mon coco. Je sais plus comment il dit. C'est extraordinaire.
Ok, Jérôme, c'est quoi toi ?
Invictus pour l'histoire post-apartheid avec un président black en Afrique du Sud, Nelson Mandela. C'est un beau film qui retrace un peu
Mais qui ne dit pas tout des coulisses de cette histoire.
Évidemment. Mais c'est un très beau film.
Un magnifique film.
C'est incomplet, oui.
David Douillet.
Moi, c'est Les Chariots de Feu.
Ah ouais, magnifique.
Ouais, l'histoire est dingue. Tiré de fait réel aussi, etc. Enfin bref, c'est deux athlètes britanniques, un juif, un protestant, englué dans...
Avec
une
musique extraordinaire en plus, pour accompagner le film.
Dans l'époque, hein, parce qu'on est, est au JO de
C'est au tout 24. Début du sport de compétition, en quelque sorte. Hein.
C'est ça, exactement. Et tiraillé encore, remarquez, on n'a pas changé beaucoup, mais... Bref, en tout cas, ces chariots de feu sont fous, quoi. Voilà, c'est pour moi le sport. C'est le premier film qui insère le sport vraiment dans nos sociétés, je trouve.
Christophe, toi, c'est pas Rocky, non,
c'est pas Rocky. Mais c'est un autre film de boxe qui s'appelle Raging Bull qui raconte l'histoire de Jack LaMotta avec Robert De Niro qui, pour ce film, avait pris 20 ou 25 kilos, je crois, et qui est un film extraordinaire. La présence à l'écran de Niro. Il y en a d'autres. Moi, je suis attiré par
Ali. Ali,
j'ai préféré le doc. Il y a un Million Dollar Baby de Clint Eastwood qui est extraordinaire aussi. Et puis, il y a deux films sur la course automobile. Il y a Rush, que j'ai beaucoup aimé, ce film Rush, qui raconte la bagarre entre James Hunt et Niki Lauda, et Le Mans 66.
Ah oui, c'est fabuleux. Fabuleux.
Mais alors, ça, c'est très bien, tous ces films, mais quand même, Joue là comme Beckham.
Le Grand Bleu,
c'était quand même.
Ou Rasta Rocket.
Non, le mien, tu vois, c'est comme la boxe aussi, c'est Hurricane Carter.
Ouais.
Voilà, avec Denzel Washington.
Il y a aussi Le Mans de McQueen.
Le Mans avec la montre.
Et on pourrait parler de musique, hein, parce que moi je trouve que les musiques de films, celle de Rocky, pour ma part, ça a bercé toute mon enfance de sportif. Hein.
Alors ça, c'est Eyes of the Tiger, mais moi je préfère la musique qu'on a entendue tout à l'heure dans le sujet. Là, tu sais, quand il monte les escaliers à Philadelphie, qu'il est à la fin de son entraînement et qu'il se retourne vers la foule, enfin, il n'y a pas de foule, il n'y a personne, les bras levés. Il y a une statue d'ailleurs qui a été faite à son effigie. Absolument. À cet endroit-là, à Philadelphie.